commencement, il n'y avait que le néant. Puis, le Big Bang créa l'univers. Mais après plusieurs milliards d'années, de mystérieuses ondes troublent l'ordre. Au fin fond de la galaxie, non, juste un peu à droite, oui, voilà, là. Le chaos prend sa source dans Big Bang le samedi.
Levez-vous, c'est l'heure de Big Bang
Station.
Nous sommes sur les
88 de la bande FM. Youhou.
Et en simultané sur Android, Periscope, Facebook, Twitter, Internet, sur notre appli, notre chaîne, notre page, notre compte, notre site Big Bang
Station.
L'émission est rediffusée demain dimanche à 16h sur Precious Radio, sur Gimme Radio, le mardi à 20h sur NG Radio, le mercredi à 14h sur... Vive.
Ah, il était pas prêt, il était pas prêt.
Ah non, je t'écoutais avec Grenade.
Le jeudi à 16h sur Radio Vintage, le dimanche à 21h sur Fréquence Zik et partout et tout par ailleurs sur Big Bang
Station.fr.
Big Bang Station, c'est un thème d'actualité auquel les chroniqueurs news, culture, histoire, record devront coller le plus possible. Aujourd'hui, nous parlerons journée mondiale de la bataille d'oreillers. Petit Manu nous expliquera l'histoire de cette journée et l'histoire de l'oreiller. Bonsoir.
Bah bonjour Didier. Bonjour. Bonsoir. Bonjour à vous tous. Bonjour. Je ne sais pas. Enfin, toujours est-il un immense grand plaisir de vous retrouver. Moi personnellement, comme un grand nombre de personnes, je ne savais pas si ça existait. Et Didier, il faut le dire, grâce à ton émission, je l'ai appris. Effectivement. Eh ben, je vous donnerai une bonne explication pour savoir qu'est-ce que c'est. Avec le plus grand plaisir de vous retrouver.
T'as utilisé ton temps d'antenne.
Eh ben voilà.
Stop,
comme tu le dis.
Pierre, comme chaque semaine, nous parle record en fonction du thème. Bonsoir.
Bonsoir Didier, bonsoir à toutes et à tous. Cette semaine, toujours pas de nourriture. C'est incroyable. Deux semaines de suite sans des émissions sur la bouffe. C'est un record, je crois. Et je dois vous dire que ça fait du bien. Je vous ai donc trouvé quelques records sur les oreillers. Et c'est dans quelques instants... seulement.
Sophie a quitté son oreiller pour le trottoir. Les Parisiens connaissent-ils la bataille d'oreillers? La réponse dans le micro-trottoir de Sophie. La culture, c'est avec Corée. Et pour cette spéciale bataille d'oreillers, tu as choisi d'autres armes plus efficaces.
Voilà, cette semaine, la culture veut elle aussi jouer à la bataille d'oreillers. Mais attention, elle ne fait jamais les choses à moitié. Il risque d'y avoir des morts.
Ah bon?
Oui, oh. Carrément.
Eh bien, ça va faire peur.
Et puis Kevin va nous endormir en musique. Bonsoir.
Bonsoir Didier, bonsoir à toutes et à tous. Et ce soir, je vous propose une bataille d'oreillers en musique. On va s'amuser, je l'espère.
Ah bah, on compte sur toi.
Et puis notre invité, Matan, a l'habitude de faire des batailles d'oreillers. Bonsoir.
Bonsoir, merci beaucoup pour l'invitation.
Tu nous expliqueras comment se passe une bataille d'oreillers. Moi, j'en ai jamais fait.
Avec grand plaisir.
J'ai fait d'autres choses sur l'oreiller.
Oui.
Mais je me suis pas battu.
Ah bah, bon, t'es pas le seul, moi aussi. C'est pour ça que j'ai hâte de découvrir. Alors là, on est... tout ça, bonne école Nathan,
tu vas nous apprendre.
Quant à moi, je testerai l'actu insolite avec vous. Et l'émission est réalisée par Gérald.
Gérald. Toute première fois.
Il est timide, il veut pas parler.
Non, il veut pas parler, on respecte.
Gérald n'appuie pas sur le bouton rouge, sinon tout explose.
Voilà.
Et avant de rentrer dans le thème de la bataille d'oreillers, réveillons-nous avec les
infos.
Les questions que personne ne se pose.
Qu'avait cet homme de particulier dans sa veine?
Des excréments.
Quelque chose de sexuel?
Non. Didier vous les expose.
De la merde.
Non.
Décidément.
De l'urine.
Non.
Pourquoi cet avion à destination de Malaisie a fait demi-tour?
Ça concerne un passager.
Oui, une passagère.
Il y a eu un problème avec une passagère.
Ouais.
Elle a oublié quelque chose à l'aéroport.
Oui.
Voilà. Ah bon,
enfant. Et oui, maintenant, elle a oublié son enfant à l'aéroport, tout simplement.
Yo, tu t'inquiètes là, maman ou le papa, je sais pas, mais.
On appelle la DAS.
Bah, elle avait pas vu qu'elle avait perdu son enfant au début, puis elle s'est rendue compte après.
Eh ouais, mais au moins, on peut dire que la compagnie, ils ont été indulgents et ont du tac et du bon sens. Parce que.
Allez, la deuxième, à 104 ans, que rêve-t-elle de faire?
L'amour.
Non.
Se marier.
Non.
Le tour du monde.
Avoir un orgasme.
Non, petit Manu.
Avoir un enfant.
Non.
Faire un quelque chose d'insolite, un sport qui sort de l'ordinaire.
C'est pas sportif.
Ah, c'est pas sportif.
C'est quelque chose que nous, on n'aimerait pas faire.
Ah.
On n'aimerait pas faire.
Bah, mourir.
Personne.
Non, pas mourir.
Non.
C'est glauque?
Non, c'est pas glauque, mais c'est interdit. Enfin,
c'est interdit.
Ah. C'est en rapport avec la loi.
Marcher sur la route.
Fumer du cannabis.
C'est plutôt les conséquences.
Tuer quelqu'un?
Alors, pas tuer quelqu'un, les conséquences, c'est quoi de faire
la prison?
En prison.
Oui, donc, elle rêve de se faire
incarcérer.
Alors, juste avant.
Passer les menottes.
Il y a 104 ans, elle rêve de se faire menotter.
La coquine. Eh ben,
c'est un rôle de fantasme.
Mais menotter par les forces de l'ordre.
Ah, bah oui,
bien sûr.
On avait bien compris.
Qui d'autre?
Et en fait, c'est à l'occasion d'une initiative de l'organisation Alive Activities qui recueillait des souhaits des résidents d'une maison de retraite. Elle a gagné ce concours, cette femme de 104 ans, tout simplement. Elle voulait être arrêtée car elle n'a jamais été du mauvais côté de la loi.
Ah ouais, elle voulait faire un kiff, quoi.
On peut dire que c'est une bonne chose, mais enfin, c'est vrai, c'est un rôle de rêve, mais pourquoi pas, hein.
Et elle devrait être bientôt placée en détention provisoire.
Eh ben, j'ai envie de dire, affaire à suivre. Ben, ça passe pas inaperçu, une affaire comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais...
Tu rêverais, toi, de te faire menotter ?
Non. Alors, si, sauf comme je suis comédien, par exemple, si je joue dans un série, je suis un méchant ou un film. Mais dans la vie, j'aime pas vraiment.
Allez, la troisième. Désormais, vous pouvez connaître la météo de... D'où, à votre avis ?
L'espace.
Non.
D'une autre planète.
Des nuages.
De Mars.
Du ciel.
De Saturne. De Vénus.
De Mars. Vous pouvez connaître la météo de Mars. C'est la NASA qui publie le bulletin de météo quotidien.
J'ai dit ça complètement au hasard, le pif comme
est-ce
ça,
qu'il fait chaud, est-ce qu'il fait froid?
Il faut y aller à quelle période du coup?
Je crois qu'il n'y a pas de bonne période en fait. Non, pour y aller.
Mais okay. Didier,
tu peux toujours y aller avec ton maillot de bain et bronzer. Enfin,
Didier, bon. Je crois qu'il y a Thomas Pasquet qui est monté.
Mais pas sur Mars.
Non, mais qui est monté et il rêvait d'une chose sur Terre, il rêvait. Donc forcément, en dehors de remonter dans l'espace, dans la planète, c'est un rêve, pas n'importe qui est là-bas, mais il rêvait. Hein.
Le Normand, c'est un Normand.
Ah bah oui, sans doute, je ne sais pas.
Mais si, c'est un Normand.
Ah oui, bah si tu le dis, il rêvait de remonter.
Attention, je suis un peu Normand.
Ah, respect. Je pensais que tu parlais de Normand, de Gérard le Normand, qui est un chanteur.
Non, rien à voir.
Aucun rapport, je sais, c'est pour ça que je ne comprenais pas. Mais enfin, ça aurait pu.
Allez, la dernière, petit Manu, il faut que tu la trouves.
On va tout faire pour cela, mon cher Didier.
Qui c'est qui a gagné, là?
C'est moi.
Et moi aussi, j'ai trouvé.
T'as rien trouvé du tout, non?
On a fait exéco.
Un.
Mais maintenant, il trouve.
On verra bien.
Alors, je vous propose de déménager. Où vous voulez vivre?
Sur la Lune.
En Bretagne.
Non, sur la Lune, Matan.
En Bretagne.
Toi, pourquoi en Bretagne?
Parce qu'il y a la mer, il fait beau, il y a des crêpes et du cidre.
Il fait beau.
Ouais. Si, il fait beau.
Si, il fait beau.
Ou alors, un grand appartement, 5 pièces, on peut mettre toutes les affaires qu'on veut.
Oui, mais où? Dans le sud, dans le nord?
Ah, dans le sud.
Pourquoi le sud?
On a besoin d'accent, puis...
Ah, toi, c'est pour l'accent.
Il fait toujours beau aussi, la mer. Voilà.
Tu penses à Nino Ferrer, peut-être, qui s'est attiré le sud.
C'est vrai, effectivement, faut y songer. Mais la région aussi.
Et Kevin, tu voudrais vivre où, toi?
Moi, j'aimerais vivre dans un endroit où il fait beau, où c'est calme, où les gens ils sont gentils et accueillants.
Mais je crois qu'on est tous un peu comme ça. Je ne sais pas si ça existe, hein. Mais ça, moi aussi.
Bah oui, on choisit souvent de déménager parce qu'il fait chaud ou froid. Eh bien, ça va changer grâce à cette nouvelle maison. Pourquoi? Ça sera plus un problème.
Ah, parce qu'elle bouge. Elle a des roues.
Elle bouge pas. Ah. Non. Pourquoi le climat ne sera plus un problème dans cette maison?
Ah, va être dans une sorte de serre avec un ciel artificiel.
Eh oui, ça serait une maison serre avec un microclimat toute l'année. Un microclimat modéré, il n'y aura plus besoin de chauffage.
Ah bon?
C'est une maison serre autonome en plus.
Et ça va se faire d'ici combien de temps à peu près? Faut attendre.
C'est déjà fait.
Ah, c'est déjà fait. Auré! T'as départagé, t'as gagné. Oui. Au moins, faut le féliciter. Je suis peut-être tout seul, mais le corps y est.
Merci.
N'est-ce pas, Nathan?
Bravo.
On le félicite.
Allez, merci.
Voilà, bravo. Auré.
Je n'ai pas qu'un physique.
Ah, bah, on peut dire que des bottes cellules grises marchent bien. Bravo.
Comme petit Manu, il a un microclimat autour de lui. Il fait toujours chaud. Je sais pas pourquoi.
Bah, je sais pas, mais faut dire qu'en ce moment, il fait chaud. C'est le printemps après tout.
Tu transpires toujours, t'as des moustiques. Je sais pas, t'as un climat comme ça.
Il fait chaud et on en a besoin du soleil. J'espère que ça va durer, mais en tout cas, ça fait bien du bien.
Vous êtes toujours dans Big Bang
Station
pour cette spéciale
bataille d'oreiller.
Voilà. D'ailleurs, comment ça a commencé la journée mondiale de la bataille d'oreiller,
petit Manu? Justement, je veux tout dire. C'est le moment d'écouter.
Chaque semaine, il crypte l'actualité.
Un président américain, Monsieur Barack Obama. Donald Trump. Il arrive. Bilton. David Bouillet. Joe Cocker. Justine Tiberlin. Lady Dada. Sakina. Oui, Kendrick.
Vous trouvez petit Manu et son grand dossier journalistique.
J'ai mangé tous les travaux. Non.
Tous les quoi?
Alors, la bataille mondiale d'oreillers, c'est
la journée mondiale de la bataille.
La journée mondiale.
Imagine une bataille mondiale.
Oui, c'est vrai. La journée
troisième guerre mondiale.
Mondiale de l'oreiller. C'est une journée célébrée, faut le savoir, depuis 2009. En anglais, Pillow Fight Day. j'essaie de bien prononcer.
Pilot qui veut dire ?
Pilot, ça veut dire peut-être oreiller.
Ah oui.
Oreiller, voilà, oreiller. Le principe est simple. Chaque premier du samedi du mois de avril, ne te découvre pas d'un fil, faut bien le préciser, retrouvez en ville avec vos amis et allez participer aux batailles d'oreiller. On doit ce mouvement à un groupe, le Urban Play Group Movement. De nombreuses villes ont été organisées dans des grandes batailles géantes comme Melbourne, Kuala.
Sur quelle planète cette ville ?
Oh, bah, c'est une ville, ça existe. Oui. Melbourne, peut-être en Allemagne, peut-être, je sais pas. Kuala, Melbourne, à New York, Londres, Hong Kong, Toronto, Seattle, mais aussi Paris. Alors, je vous propose de prendre votre oreiller et venir dormir. Chez moi, bon, ça, on verra.
Je vais vous dire pourquoi.
Parce qu'on travaille ensemble, en duo avec Didier. Et ça, c'est il a une très bonne philosophie, j'ai simplement répété.
Et des fois, je rajoute des petites phrases.
Voilà, une petite boutade, un peu d'humour, ça fait de mal à personne. Je vous donnerai la suite tout à l'heure.
Merci,
Didier.
Petit Manu, tu nous expliqueras l'histoire de l'oreiller.
Et voilà.
Et Pierre, les records d'oreiller.
Voilà, à tout à l'heure.
Sport, exploit, record.
C'est un record de longévité, mais c'est pendant 27 heures, 3 minutes et 44 secondes. Le précédent record était de 26 heures. Il a interprété 300 morceaux, de Gershwin à Britney Spears, en passant par Beethoven et le Gangnam Style de Psy.
Pierre nous parlera performance.
Pierre qui roule, Nabas, pas mousse.
Et Manu, si t'as rien à dire, tu peux rien dire.
Question, j'essaie de répondre.
Non.
Un peu d'imagination.
Ah, les oreillers, un de mes meilleurs amis, bien plus confortable que le traversin qui, au-delà de son nom quelque peu original, voire comique, est en fin de compte très peu utile et confortable. Je ne sais même pas si cela se fabrique encore de nos jours. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires de la page Facebook Big Bang Station si vous êtes plutôt team oreiller ou team traversin. Le gagnant se verra offrir une sortie dans le lieu de son choix par et avec notre petit Manu national. Pas sûr que ce soit un cadeau, mais bon, comme on dit, c'est toujours mieux que rien. Et je terminerai par dire qu'au-delà de cette journée de l'oreiller, je fête aujourd'hui mes 26 ans. Je me souhaite donc un bon et heureux anniversaire et merci bien évidemment à toutes celles et ceux qui me le souhaiteront. Je pense fort à vous, merci à vous. Bref, nous commençons sans plus tarder avec un record nous venant des États-Unis et particulièrement dans l'université d'Irvine, California. Pardon, je m'emporte. En effet, pour battre un record du monde, il suffit parfois de s'amuser comme un petit fou. Nul besoin de suer sang et eau comme certains sportifs qui en chient en gravissant des montagnes, en parcourant des kilomètres à la nage ou en faisant des tours du monde à vélo. Les étudiants de l'université d'Irvine en Californie n'ont donc pas eu besoin de beaucoup d'efforts pour battre ce record de la plus grande bataille d'oreiller. Ils étaient 4200 en 2014 à se frapper à coups de polochon à un moment historique, si j'ose dire. Après 60 secondes de bataille, les étudiants américains ont donc battu le précédent record établi en octobre 2013 par 3813 habitants de Chicago, donc encore des Américains. Le Guinness des records est d'ailleurs habitué de cette université, puisqu'en 2013, elle avait été le théâtre du record de la plus grande bataille de pistolets à eau au monde, avec plus de 3800 participants, toujours là pour déconner, c'est ricains. Et maintenant, je vais vous apprendre quelque chose de pratique, des colos, et dont vous, les citadins de la grande ville, n'avez jamais entendu parler. Et oui, parce que je vous dis oreiller, vous pensez sommeil, dormir, un oreiller quoi. Eh bien non, mes petits loirs, il en existe d'autres, comme celui développé par l'entreprise française La Baronne Citaf, qui a créé la citerne souple, annoncée comme la plus grosse du monde, qui contient 2000 mètres cubes d'espace. Elle vient d'être installée dans le nord de l'Italie, chez un éleveur de taureaux, récupérant le lisier pour son unité de méthanisation de 1 MW. Conforté à une contrainte de stockage, cet agriculteur, également producteur de gazon et de tabac, a choisi cette impressionnante citerne, plus économique qu'un nouveau bâtiment en dur, et n'imposant pas l'obtention d'un permis de construire. La citerne La Baronne Citaf est issue de l'assemblage de lait de tissu technique composé d'une trame en polyester enduite de PVC ou de polyuréthane avec un traitement anti-UV sur les deux faces. Une fois remplie, elle ressemble donc à un gros oreiller, ce qui lui a valu le nom de citerne oreiller. Alors là, ça vous embouche un coin, les petits gars. Et je vais finir avec un autre type d'oreiller, à savoir le pilot lava. Mais Pierre, qu'est-ce donc que le pilot lava, me direz-vous ? Eh ben, je vais vous le dire. Un pilot lava, ou lave en coussin, est une lave qui a été émise par un volcan sous-marin, notamment au voisinage des dorsales océaniques, ou par un volcan émergé, dont les coulées vont jusqu'en mer ou dans un lac. On parle toujours de coulées de lave et non pas de celles de Petit Manu. Sortant à une température de 1000 à 1200 degrés, elle se couvre d'une pellicule de verre qui, n'étant pas complètement refroidie, forme une sorte de baudruche souple, progressivement gonflée par la lave qui continue d'être émise par le volcan immergé. Les laves forment ainsi des boules visqueuses plus ou moins allongées, de 60 à 2 mètres ou sur 30 cm à 1 mètre parfois plus, ou des tubes qui s'empilent et se moulent les uns sur les autres, aboutissant à des empilements de boules en forme de coussin ou de polochon d'une taille de plusieurs mètres sur de grandes épaisseurs. La lave composant les laves en coussin est surtout du basalte et de l'andésite. Les laves en coussin se rencontrent dans la partie supérieure. La spilitisation des pilolavas résulte d'une phase de métamorphisme, les transformant en spilite et formant donc les coussins de lave ou pilolava. Bref, nous avons parlé de la plus grande bataille d'oreiller du monde, du plus grand oreiller citerne jamais construit et installé en Italie, mais fabriqué en France. Enfin, nous nous sommes cultivés en découvrant ce que sont les pilolavas dont je viens de parler. Ça fait beaucoup d'infos avant de pouvoir faire un gros dodo. Et oui, on peut le dire, c'est déjà pas mal pour un samedi.
Merci Pierre, vous êtes toujours dans cette spéciale journée mondiale de la bataille d'oreillers sur EDFM dans Big Bang.
Station
jusqu'à 21h.
Évidemment, là, on peut dire la radio du bien-être aussi.
Personne ici a fait des batailles d'oreillers, hein.
Bah non, non, parce que jusqu'à présent, j'ai appris grâce à ton émission, et je crois un grand nombre de personnes, Didier, il faut le préciser.
Le seul qui en a fait, c'est Matan, ici présent.
Tout à fait.
T'en fais régulièrement ?
Mais j'en fais tous les lundis et mardis soir.
D'accord.
Voilà, avec ma meilleure amie Virginie.
Et vous vous battez comme ça ?
On se bat à coups d'oreiller.
Et qui c'est qui gagne ?
En général, c'est Virginie.
D'accord, elle est plus forte que toi.
Virginie, elle est hargneuse et elle met des coups d'oreiller et... Elle est un peu sournoise.
Bon, j'espère que tu fais pas que ça sur l'oreiller. Il y a peut-être eu des réconciliations, des...
Oui, je me réconcilie très souvent sous l'oreiller, aussi les lundis et mardis.
Sous l'oreiller ?
Sous l'oreiller.
C'est précis, hein.
Sous la couette, sous l'oreiller, sur l'oreiller.
D'accord.
Voilà. Avec François, qui est l'amoureux de ma meilleure amie, donc Virginie. Tout à fait.
Attends, j'ai pas bien compris. Tu te réconcilies avec François, sous l'oreiller ?
Ouais. Qui est le copain de ma meilleure amie Virginie.
Mais vous êtes ensemble avec François ?
Eh ben justement, c'est un peu compliqué.
Un plan en trois.
Voilà.
Eh non, quand même pas.
Bah non, parce que sinon il est aussi avec Virginie.
Ah bah oui.
Exactement.
Elle est au courant là.
Tout ça se fait dans le dos de Virginie. Voilà.
Elle nous écoute pas ?
Non, elle nous écoute.
D'accord. Donc elle sait pas que son copain est bi du coup.
Exactement. Mais plus précisément qu'il s'interroge vraiment sur sa sexualité et il se trouve qu'on se réconcilie, on s'est réconcilié sur l'oreiller. Donc après une tentative de suicide que j'ai fait liée à mon homosexualité et donc oui on s'est réconcilié puisque il m'a avoué qu'il était fou amoureux. Voilà.
Et
en parallèle il a cette histoire d'amour avec ma meilleure amie. Donc c'est un trio un peu compliqué.
Qu'il veut quitter, qu'il va quitter.
Qu'il souhaiterait quitter, qu'il ne sait pas comment quitter et qu'il ne sait pas comment assumer le fait d'aimer un garçon.
Voilà. Et toi, comment tu vis cette histoire du coup ? Est-ce que t'es vraiment amoureux de lui ? Est-ce que c'est difficile de sortir avec le meilleur ami ? Le copain, pardon, Virginie, ta meilleure amie ?
Ouais, je crois pas que le problème ce soit de sortir avec le mec de ma meilleure amie. Le problème est plutôt du côté de François, parce que moi j'accepte assez bien le fait d'être homosexuel, c'est absolument pas le problème. Matan, il a 17 ans, mais voilà, il est... Aucun problème, moi j'ai aucun souci avec ça. Par contre, François, c'est un peu plus compliqué. C'est que, il a cette histoire d'amour avec ma meilleure amie, avec Virginie. Et en même temps, il est très troublé par moi, donc qui suis donc le meilleur ami de sa copine. Donc ouais, un peu compliqué.
Et elle se doute de rien.
Et elle ne se doute de rien, voilà, pour l'instant.
Et lui, donc, le vit mal, aussi mal que toi, tu le vivais au début en apprenant ton homosexualité ?
Non, parce que je l'ai toujours bien accepté. Je me suis posé les questions à temps, même si j'avais pas toujours toutes les réponses et que je cherchais souvent des figures pour m'identifier, etc. En tout cas, j'ai ce journal intime qui fait que je peux poser facilement mes interrogations, trouver le temps d'y répondre, etc. même si en effet voilà, j'ai pas toujours toutes les données, etc., pour y répondre. Et pour François, c'est plus compliqué parce qu'il a cette histoire d'amour avec, avec Virginie. Et en même temps, voilà, le jour où il m'a rencontré, il s'est passé quelque chose. Le temps d'une fraction de seconde, on se dit, oulala, finalement, je suis pas tout à fait indifférent. Et puis le fait d'être ensemble, de se fréquenter, etc., il y a ce double jeu. Et or, pour moi, ça va. Et puis, ça se complique. Ça se complique. Et François, en effet, lui, c'est, ça s'intensifie jusqu'au moment où il dérape. Et au moment où il me rejette. Et c'est ça qui me pousse à tenter de me suicider. Ça vient pas du fait que je sois homosexuel, puisque ça, encore une fois, je l'ai plutôt bien intégré, mais c'est le fait de me faire rejeter parce que je suis différent.
Mais une question que je me demande, je me pose, Nathan,
Matan,
comme maman, attends, Matan, voilà. Mais je sais, la jeune fille, parce qu'on t'a dit qu'elle était un peu espiègle, mais je pense que quand elle va voir ça, elle va pas poser, elle va pas passer des colères, parce que le fait que son copain la trompe, et on voit qu'elle a des très beaux yeux. Je me demande si elle réagit.
Oh,
elle
faut être susceptible quand même. Hein.
Non, mais elle va pas poser des colères. Et
vraiment,
entre toi,
certainement.
J'imagine entre toi qui fais des avances et le copain qui. Hein, comment elle va réagir assez violemment comme un volcan volcanique, je dirais. Je me trompe en disant cela.
Virginie a un caractère très très fort.
Ah, ça m'étonne pas parce que comment elle sent la
photo. C'est une femme forte. Elle a 17 ans, mais elle sait ce qu'elle veut. Elle sait aussi ce qu'elle ne veut pas.
Ah. C'est bien.
Et voilà.
Alors maintenant, nous avons Virginie au téléphone.
Ah.
Bonjour. Non, je rigole.
J'ai cru ce jour. Alors là, ça t'a eu plaisir. Hein. Et ça alors.
Bah merci Matan, tu vois, on a eu des confessions, pas sur l'oreiller, mais dans Big Bang Station.
Eh bah, mais toi, tu peux être très fier de toi, Didier, ton émission est plus qu'exceptionnelle.
Ça marche pas sur l'oreiller, tu te rappelles, une fois on t'a mis sur l'oreiller, t'as rien dit.
Non.
Tu t'es endormi.
Faut croire que j'étais fatigué.
On pensait que t'allais nous faire des confessions, rien du tout.
Oui, mais faut croire que si je l'ai fait, c'est que je devais être très fatigué et l'oreiller, ça sert à
rien. Ou alcoolisé.
Non, c'est pas moi. Moi, je parle toujours avec. Faut toujours boire avec modération. Hein. Non, mais c'est bien, en tout cas, on est très content pour toi, Matan.
Merci. En tout cas, mais on retourne sur l'oreiller avec Kevin, mais je vous rassure, en musique.
Et c'est parti pour le quiz.
Non, quiz. Attends. Comme le cheese.
On cherche à comprendre encore la règle du jeu. Je vais me porter sur la règle.
Mais sautera.
Ça y est, préparons les oreillers, nous allons écouter 4 titres et il faut trouver de quel artiste il s'agit. Tradition oblige, on commence par une femme.
Pilo. Laissez-moi deviner. Non.
Oreiller.
Alors, c'est ça fait partie du titre.
D'accord.
Oreiller, promener mon nez.
Non. Alors, la chanteuse, ça vous avez pas une petite idée?
Peut-être Vita.
Non, c'est plus ancien que ça.
Les oreillers de l'amour, les oreillers du cœur, les oreillers de.
Non. Alors, la chanteuse, elle s'appelle Juliette.
Ah oui, sur Juliette, tout à fait, Juliette, une chanteuse brune aussi, en longs cheveux, qui chante un peu ancien, effectivement,
j'ai des lunettes.
Kevin, c'est marrant, parce que, il y a une Juliette qui a été sur l'oreiller de Manu.
Oh, effectivement, j'en connaissais une, mais c'est aucun rapport. Je crois pas qu'elle chante. Non, c'est pas la même. Mais, c'est vrai qu'elle était venue une fois, on était arrivé en retard, oh là là, quand j'y pense. Mais, pour revenir à cette Juliette.
Mais tu m'avais expliqué ce que vous aviez fait, enfin bref.
Pour revenir à cette Juliette, elle chante la chanson française, mais je ne savais pas qu'elle chantait cette chanson. Pour non, ça que je n'ai le point dit.
Pour la petite histoire, c'est une chanson extraite de son deuxième album, Quétal, sorti en 1991.
Qui veut dire Quétal ?
Ça va ?
Voilà, c'est de l'espagnol.
Voilà, ça va, en espagnol.
On enchaîne avec une chanson peut-être un peu plus connue cette fois.
Ah. Pilo.
Non, c'était...
Matan, il sait.
Non. Un certain Gilbert.
On va s'aimer comment?
Montagnier, on va s'aimer.
Oui, évidemment, on va s'aimer de Gilbert Montagnier. On va écouter un extrait.
Dont sa femme s'appelle Nicole.
Oui,
on lui dira. Non, je dirais quelque chose. Il y a un année qui m'a fait.
Allez, petit Manu, chante.
On va s'aimer. Attends, plutôt le refroid atteint.
Attention, refrain.
On va s'aimer sur une étoile, sur un oreiller. On va s'aimer.
On
comprend rien.
Ça, c'est le karaoké de Britney Spears.
On va s'aimer.
Ouais, bref, tu connais pas les paroles. Voilà.
Non, mais par contre, j'ai une petite anecdote. Un jour, Gilbert Montagné était à l'Olympia. Et ben, n'empêche que le jour où il était à l'Olympia, quand on prenait le métro, et ben, on entendait la musique de On va s'aimer de Gilbert Montagné.
Merci pour cette info, petit Manu.
C'est arrivé une fois.
Ça, c'est de l'anecdote. Hein. Ah bah, à quoi tu fais mieux. Une fois, tu as fait PPDA. Un jour, je vais vous raconter une anecdote. Il a présenté le JT.
Ouais, il est présenté depuis un certain temps.
Les anecdotes sont mieux qu'avant.
Voilà. Bah oui. Mais n'empêche que c'est une anecdote. J'étais là et c'est vrai que c'est pas tous les jours qu'on va à l'Olympia, on passe au métro opéra, on entend une chanson d'un chanteur.
Très bien, Manu.
Bah je t'en prie.
On passe à l'anglais avec un chanteur charismatique, très jeune.
Pilo.
Bieber.
Non. Alors, il y a du Pilo dedans, effectivement.
Zayn.
Zayn Malik.
Zayn Malik, oui. Avec le titre Pilo Talk, qui veut dire en français, Manu.
Je préfère que tu le dises.
Pilo. Le soleil ne se lèvera pas demain.
Pilo, Pilo.
Alors, plus confession sur l'oreiller.
Ah, voilà.
Et on termine avec une chanteuse.
Bon bah c'est pas Chantal Goya déjà, on peut l'éliminer.
Non.
C'est une chanteuse.
Alors le titre c'est Oreiller en anglais.
Ah voilà, bon oreiller.
Non.
Non, je sais pas, j'ai dit au hasard.
Pilo le titre.
Ah on dirait Sia ou non.
Non. Alors elle s'appelle Bébé.
Bébé Rexha.
Oh, Bébé Rexha, wow. Oreiller, absolument. Oui, c'est le titre extrait de son premier album Expectation, sorti en 2018. Et j'ai choisi ce titre bien parce que le titre s'appelle Pilo et Pilo qui signifie en français
Oreiller.
Bravo.
Voilà, voilà. Mais mon cher Kevin, je pense à deux chanteuses que t'as pas oublié, t'as pas cité. La première, Mylène Farmer, je suis une prostituée, je suis une catin. On voit elle se bataille comme ça.
Non,
enfin, je suis une catin. Ah. Dans son clip, on voit. Et quand elle était petite, Elsa, eh ben, jour de naissance, on voyait parce que c'était par rapport dans le clip, ses parents ont divorcé et il y avait une bataille d'oreiller. Et elle était petite,
Oui, mais bon, c'est dans le clip.
Eh ben, dans
regardez oui, les titres de Kevin sont quand même mieux. Hein.
Oui, mais
oui merci Didier,
mais
merci.
Mais c'était jour de naissance d'Elsa, eh ben, il y a une grande bataille d'oreiller. Je vous conseille d'aller le voir.
Eh bien, merci Manu, merci à tous, merci Gérald.
Ah ouais.
Bah, merci Kevin. Quel titre vous avez préféré alors, petit Manu? Bah, il s'en souvient plus. Ouais, bref, maintenant. Bien.
Zayn Malik, évidemment.
Ah là là. Ouais, c'est pas mal.
Gilbert Montagné.
Ah, Gilbert Montagné,
aussi,
c'est
vrai.
Ouais, Gilbert Montagné.
Ben, Gilbert Montagné.
Ouais, Gilbert Montagné. Gilbert Montagné. Bon, voilà. C'est parti pour Gilbert Montagné.
On va s'aimer.
Oh,
s'aimer, petit Manu. Pardon, on va s'aimer.
Oui.
Tout court.
Tout en va s'aimer.
De...
Non, c'est
au bout d'un. De qui?
Bah de
Gilbert
Montagnier.
Et vous êtes toujours dans Big Bang
Station.
Jusqu'à 21h sur Île-de-France FM, voilà. Radio Anguin.
Faut le préciser et le dire, la radio du bien-être.
L'émission est rediffusée demain. Sur quoi, petit Manu? 20h les Muses de Paris, 19h Gimme Radio, 16h Precious Radio.
Virgin Radio?
Non, pas sur Virgin Radio, non.
La nouvelle radio, là.
Les Muses de Paris.
Les Muses de Paris, tout à fait, voilà.
Voilà, à 20h, c'est
voilà,
ce que j'ai dit.
Je voulais préciser, voilà.
Et si vous êtes amis sur notre page Facebook Big Bang Station, ou Didier Mesgar, parce qu'elle a été renommée par Facebook, qui veut pas l'appeler Big Bang Station.
Puisque fort dommage, mon frère. Voilà.
Bon, bref, c'est... Ouais, si c'est votre anniversaire aujourd'hui, on vous le souhaite à l'antenne. Bon anniversaire donc à Pierre Marolle, 26 ans. Donc Pierre, notre Pierre.
Ah, ben oui, Pierre. Très bon anniversaire, vieux. Et c'est pas, je suis vieux pour faire jeune, comme ça.
À Jean Prada, 27 ans. À Denise Déter, à Mathieu Noirot, 33 ans, Catherine Després, 55 ans, Mouldi Guettari, Claude Auteur, 60 ans, Mehdi Joseph Johnson. Bon anniversaire à toutes et tous.
Bon anniversaire. Alors, aujourd'hui, c'est à Saint-Marcelin. Moi, je pense à deux Marcelins. Je crois qu'il n'y a aucun rapport, mais il y a un fromage qui s'appelle comme ça.
Bonne fête au fromage.
Non, mais ça sent très mauvais, c'est le Marcelin. Et moi, à l'époque, quand j'avais commencé à l'époque, c'était, il y avait, on peut dire un grand bonjour à notre cher ami Didier, oui. Michel Varenne, de 9h, bal petit bal. Et moi, j'enchaîne avant. Et c'est vrai que l'émission, j'animais avec un certain
Thierry Marcelin. Mais ça, c'est son nom de famille.
Oui, mais je sais. Mais j'y pense, c'était vraiment...
Ça marche pas, petit Manu, si c'est les noms de famille.
Ah, ça bon, ne bah, marche ça que marche si pas. C'est les prénoms. Bon, ah, bah évidemment. Bon, bah tant pis. Saint-Marcelin, je voulais raconter ces derniers.
Ah, bonne fête au fromage, alors.
Voilà, au fromage, qui sont très mauvais, mais c'est un fromage, comme ça, voilà. Voilà.
Et si vous nous écoutez demain sur Gimme Radio, les Muses de Paris, ou Precious Radio, c'est l'anniversaire de Philippe Jean Méni, 53 ans, de Patrice Vella, 53 ans, d'Acheteur Thierry et de Awen Saint-Michel, 48 ans. Bon anniversaire à toutes et tous.
Très bon anniversaire.
On embrasse le papa de Louis Garrel qui a 71 ans.
Ah, bon anniversaire, papa.
Ah, c'est ton papa?
Non, le père de Louis Garrel.
Ah, bon, bon, c'est un très bon anniversaire.
Voilà, on embrasse son fils.
Voilà.
Allez, on va quitter l'oreiller pour le trottoir. C'est l'heure du micro-trottoir de Sophie. Chaque semaine, Sophie se munit de son micro pour interroger les passants sur le thème de l'émission.
Mademoiselle, excusez-moi de vous déranger. Vous êtes en train de courir. Ah oui, vous arrêtez même pas.
Bah
oui.
Non, je m'arrête pas.
Dommage, vous pouvez pas, vous êtes en train de courir. Au revoir.
C'est l'heure du micro-trottoir de Sophie.
Bonjour à tous, bonjour Didier. De 1960 à 2019, la bataille d'oreiller, qu'on en ait fait ou pas, marque les esprits. Elle fait des ravages si on en a fait au niveau de la mémoire, elle fait des ravages si on n'en a pas fait au niveau de l'imaginaire. Écoutons voir ces passants très inspirés.
Les batailles d'oreiller, vous en avez fait, monsieur?
Ah oui, j'en ai fait beaucoup, dont une absolument légendaire.
Ah bon? Alors, racontez-nous.
Eh bien, c'était en colonie de vacances, la colonie des Ménules, dans les années 60. Nous avons engagé une bataille de polochons de tout le dortoir. Il y en avait partout. Le pion est rentré fou furieux, nous a punis, et retourné dans sa chambre. Nous l'avons attaché dans sa chambre avec une ficelle, et nous avons continué la bagarre de polochons.
Vous avez attaché quelqu'un, mais alors là, la sanction a dû être d'autant plus terrible.
Ah oui, c'est bien. Il criait dans sa chambre, et il pouvait plus bouger parce qu'on l'avait attaché.
Mais alors après, c'est le directeur qui vous est tombé dessus?
Le lendemain seulement.
Est-ce que vous vous rappelez la punition? Parce que visiblement...
Ah oui, très bien. La punition, c'était une marche forcée de 40 km sans s'arrêter.
C'est pas possible.
Si, les moniteurs se relayaient 3 fois pendant la journée. Et nous, pendant qu'ils se relayaient avec la traction avant du directeur, on n'avait même pas le droit de s'arrêter. On marchait.
Bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous savez que c'est bientôt la journée internationale de la bataille d'oreiller?
Non, j'ignorais.
Oui, le 7 avril.
Le 7 avril.
Ouais.
Vous avez déjà fait des batailles d'oreiller, s'il vous plaît?
Non, jamais.
Quand j'étais petit, je crois que j'avais mon meilleur ami qui était venu dormir chez moi quand j'avais peut-être 7-8 ans, quelque chose comme
d'accord,
ça. Ouais,
d'accord.
Du coup, au milieu de la nuit, on avait fait une petite bataille d'oreiller.
Il y avait deux oreillers, là.
Il y en avait eu trois, en fait, parce qu'on en avait cassé un. Enfin, il y en a un qui avait explosé, mais...
Il y en avait c'était des plumes ou c'était de la mousse?
C'était des plumes, c'était un bel oreiller en plumes et tout.
Vous avez pu vous cacher alors avec ça là?
On n'a pas pu, ça a été...
Vous avez fait disputer, non?
Un petit peu, voilà. Okay. Je crois que c'était une des dernières batailles d'oreiller que j'ai fait.
Voilà. Ça vous a plus donné envie d'en faire, d'accord.
Ouais, les traversins en colonie, quand on voulait pas dormir, ça partait un peu en cacahuète quoi.
Bon, mais vous n'abîmiez donc pas les oreillers mais...
Non, juste les têtes. Ouais, en colonie de vacances, quand on voulait pas dormir.
C'est qui démarrait le jeu en fait?
Ah, bah justement, on sait pas.
Jamais, vraiment jamais, pas eu.
Jamais, non, généralement, on se bagarre, mais sans oreiller.
Sans... Mais ça, c'était quand vous étiez petite.
Ouais, mais en vrai, j'ai toujours trouvé que c'était un peu cliché, les batailles d'oreiller. Ouais, enfin, même si y a des gens très bien qui font des batailles d'oreiller.
On peut le dire.
Mais il y a un cliché très sexy sur les batailles de polochon. Tu vois ce que je veux dire?
Les soirées pyjama.
Soirées pyjama où on t'imagine que toutes les filles sont en culotte et se bagarrent avec des polochons. Mais nous, on regardait des films interdits qu'on n'avait pas le droit de regarder. Oh. Et on se battait beaucoup. On se bat toujours beaucoup aujourd'hui.
Mais alors avec les mains.
Avec les mains plus. Mais on est très boxe, nous.
Ah, c'est bien, ça
se voit
pas, hein.
Ouais.
Bah, si, quand même, c'est vrai que vous faites sportive.
Ouais, un petit peu. En plus, c'est cool, ça fait pas mal. Il y en a qui osent pas trop se battre ou faire des sports de combat.
Ah oui, donc ils se
lâchent. Du coup, peut-être qu'ils sont un peu plus en confort avec, avec la bataille de polochon.
Vive les batailles d'oreiller ou pas. À bientôt pour un autre thème.
Merci Sophie. Donc il y a pas beaucoup de gens qui connaissent la Journée mondiale de la bataille d'oreiller.
Bah effectivement, moi je l'ai dit, je l'ai reconnu, mais effectivement c'est un jour qui existe et c'est vrai que c'est peu courant grâce à l'émission où vous soyez dans le monde.
On apprend beaucoup de choses.
Et ben exactement. Tout à fait, mon cher Kevin.
D'ailleurs, il y en a un seul ici qui fait des batailles d'oreiller, c'est Matan. Matan qui en fait est joué par Douglas Lemenu.
Tout à fait. Je m'appelle pas Matan.
Tu fais donc
enchanté.
Voilà, bah on est très content de vous connaître.
Tu fais quand même des batailles d'oreiller ou pas?
Oui, je fais des batailles d'oreiller de temps en temps.
C'est le premier volet d'une trilogie, hein, c'est Cœur sauvage.
Tout à fait. C'est une pièce, c'est le premier volet de la trilogie écrite par Christophe Botti, donc l'auteur.
Qui est déjà venu.
Qui est déjà venu ici
plusieurs fois.
Et c'est donc l'histoire de trois jeunes adolescents. C'est une pièce sur les tourments de la jeunesse, les premiers émois, la quête d'identité de ce personnage, Matan, qui se questionne sur qui il est, où il va, avec qui il avance, et puis la confrontation du regard des autres et surtout les réactions face à cette différence que lui, il a plutôt bien assimilée. Mais voilà, le rejet de François, donc lié à sa sexualité.
Et moi, j'ai une question, Nathan, de poser, parce que là,
c'est super.
Matan.
Douglas.
Douglas, elle a mis Matan dans la pièce. Voilà.
Exactement.
Voilà, j'ai tiens à préciser. Mais la super demoiselle, parce que justement.
Il veut savoir, en fait, parce que quand tu lui as dit que c'était une pièce, il s'est dit qu'elle est peut-être célibataire.
Ah, ça, je me suis même pas posé la question. Je vois sur la fiche. Mais la question que je me pose, c'est parce que, comme elle sait pas, après, son copain.
Non, mais c'est une pièce. Hein.
Ah oui, je sais. Mais dans la pièce, il faut aller voir la pièce pour cela.
Mais, oui.
Mais ça ne fait pas des drames parce que le fait que tu sois là et son copain hésite, et c'est ça qui réagit comment à la fin. Je me demande pour aller voir la pièce pour cela, le suspense.
Petit Manu, tu veux pas savoir la fin du film avant d'avoir commencé?
C'est vrai.
Alors,
il faut venir au théâtre. C'est vrai, aller au théâtre.
Ouais. En fait, si, il veut savoir la fin parce qu'il oublie le début à la fin.
Non, c'est vrai que j'ai posé une question, mais je crois que la seule réponse pour savoir le suspense, allez voir directement au théâtre.
Au théâtre.
C'est la cinquième reprise.
Oui, c'est la quatrième ou cinquième reprise. C'est une pièce qui a été créée il y a 15 ans au Tango à Paris avec une jeune distribution, des jeunes comédiens qui aujourd'hui font carrière, notamment Édouard Collin qui jouait donc le rôle de Matan, mis en scène par Frédéric Mauger. Voilà, avec mes deux partenaires qui sont assez extraordinaires, Virginie qui est jouée par Léa Malasné et François qui est joué par Thomas Violo, qui sont tous les deux donc comédiens.
Il y a un DVD ?
Oui, il y a un DVD, la captation de la pièce, donc cette captation de la toute première création au Tango à Paris avec Édouard qui est sorti un DVD. Ouais.
Alors tu es comédien, mais tu es aussi le producteur de la pièce.
Oui, je suis le producteur exécutif de la pièce.
Comment tu t'es retrouvé comédien en même temps alors ?
L'histoire est un peu particulière. Déjà, en tant que producteur, moi, j'ai découvert Un cœur sauvage après avoir vu cette captation, il y a 10 ans, quand j'avais 14 ans. J'avais des petites interrogations sur qui j'étais aussi, ce vers quoi j'allais, ce à quoi j'aspirais dans la vie. Et puis, je sentais que j'étais un petit peu différent. Je sentais que j'étais plutôt attiré par les garçons. Et j'ai vu cette captation sur Internet et je me suis dit, ah bah voilà, ce qui se passe dans la vie de Matan, c'est ce qui est en train de se passer chez moi, à quelques détails près. Et j'ai pris contact avec l'auteur, donc Christophe, et on a parlé pendant plusieurs années, quasi 7-8 ans, sur Facebook, à échanger des messages. Et puis Christophe m'a poussé à monter sur Paris pour faire de la production. Et l'année dernière, en mai dernier, il m'a appelé pour me dire « Bah voilà, j'aimerais bien que pour nos 10 ans d'amitié, tu produises le retour de Cœur sauvage à Paris, parce que je crois que c'est une pièce qui est essentielle et qui a encore beaucoup d'utilité d'être à l'affiche, même à Paris. »
Il y aura le deuxième volet, le troisième volet, je suppose, bientôt.
Je ne sais pas, j'ai une histoire particulière avec cette pièce, alors voilà, à la base c'est pas moi qui devais jouer le rôle de Matan, et puis les circonstances m'ont amené à reprendre le rôle un petit peu avant la première. Voilà, les deux volets sont suivants, donc Un cœur en herbe et Un cœur de père sont deux magnifiques pièces aussi, et les trois pièces ont été montées à Paris en 2013, je crois, 2013 ou 2014, où Un cœur sauvage était joué le jeudi, Un cœur en herbe le vendredi, Un cœur de père le samedi, et puis le dimanche, c'était la trilogie qui était jouée le dimanche, donc les trois pièces à la file, et puis c'était un seul comédien qui jouait le rôle de Matan, puisque Matan, c'est vraiment le personnage qu'on retrouve dans les trois pièces, c'est vraiment ce parcours initiatique à trois âges de la vie, avec trois enjeux, l'acceptation, la vie à trois, et puis ce désir de
la vie de père ensuite.
Exactement.
Marrant, la vie de père, et la vie à trois.
C'est une trilogie, et il y a toujours trois comédiens sur scène. Pièce avec trois.
Et maintenant, j'ai une meilleure question à te poser par rapport à la
meilleure.
Autant tu es à la fois comédien et producteur, c'est pas dur de faire de produire la pièce et avoir un rôle. Est-ce que tu arrives à faire le bon discernement? Parce que c'est peut-être pas la même attitude qu'on doit avoir et demander par la même occasion.
Oui, alors là c'est un projet où je suis quand même très très bien entouré avec des comédiens qui sont extraordinaires et qui en effet m'ont côtoyé au début en tant que producteur, parce que j'ai rejoint la distribution un petit peu tardivement, mais tout ça se fait
dans la bonne entente
avec un metteur en scène aussi assez incroyable, très bienveillant, et puis Christophe qui est là et qui est présent
tous les
mardis et qui vient voir la pièce tous les mardis, voilà, tout se passe très très bien. On a fait trois mois et ça a été une réussite avec de très très bonnes critiques, et ça nous a aidé aussi à nous porter,
parce bien avancer aussi.
Voilà, moi je suis pas comédien à la base, et c'est vrai qu'on avait aussi cette peur aussi d'être un peu jugé difficilement par la critique, à la fois par la presse mais aussi par les spectateurs. Et finalement, les retours sont très bons, donc c'est enthousiasmant. Ça nous a porté là pendant trois mois. Il nous reste encore un mois avec l'idée, évidemment, moi en tant que producteur, de porter cette pièce au-delà de Paris, c'est-à-dire partir en province.
Par la suite, quoi.
Et surtout faire que cette pièce puisse circuler dans les collèges et les lycées auprès du jeune public.
Et est-ce que le sujet de l'acceptation ou non, d'ailleurs, des parents de l'homosexualité est traité dans la trilogie ?
C'est évoqué par Matan dans ses monologues, justement, où il évoque le rapport avec sa mère, avec son père.
Il l'accepte ou pas ?
Les parents ?
Ouais.
Bah, je préférais. Enfin, je vous laisse découvrir la pièce. C'est vrai que c'est une question qui revient aussi assez souvent. Oui. Parce que oui, l'acceptation, il y a quand même deux volets. Il y a s'accepter et puis se faire accepter auprès des autres.
C'est important.
Voilà, il se trouve que Matan a fait déjà une grosse partie du travail. C'est que lui, il s'est accepté et que depuis très jeune, il a su mettre des mots sur des situations, etc. Et le plus compliqué, c'est se faire accepter auprès des autres. Et c'est ça qui l'emmène vers cette tentative de suicide. Donc, nous on est en partenariat avec SOS Homophobie aussi, qui travaille avec nous et qui soutient la pièce. Et voilà, dans l'idée, si en partant en province, en jouant dans les milieux scolaires, c'est d'animer après des débats avec des représentants des antennes régionales de SOS, parce qu'il y a un vrai message. Alors, moi j'ai tendance à dire que c'est vraiment l'histoire gay, c'est vraiment la toile de fond, parce que au fond, c'est les rapports humains, la frontière entre l'amour, l'amitié, c'est tout ce questionnement, et on s'est tous posé la question au moins une fois. Il arrive très souvent qu'on ait des couples hétéros qui nous attendent à la sortie du théâtre, et une fois on a eu un jeune garçon avec sa copine qui disait bah voilà, cette pièce elle m'a touché, elle m'a parlé, pourtant je suis pas gay, mais j'ai au moins été une fois confronté quand j'étais plus jeune à une situation semblable où je me suis dit j'ai peut-être été un peu con parce que j'ai vu ça sous mes yeux, j'ai rigolé, j'ai un peu charrié, ou alors j'ai pas voulu savoir, j'ai pas voulu comprendre ce qui se passait. Et je crois qu'on a tous vécu ça au moins une fois au collège ou au lycée, ou même dans le milieu de l'entreprise, c'est-à-dire ce rejet de la différence. Et au-delà de la sexualité, de l'attirance pour un homme ou pour une femme, c'est la différence au sens large. Moi, j'ai mon neveu de 10 ans qui est venu voir la pièce il y a un mois et qui m'a dit « Ah, bah, en fait, parfois, je suis peut-être un peu con à l'école, parce que bah, celui qui est un petit peu gros ou celui qui a une couleur de peau un peu différente, bah, on a tendance à le charrier. » Et je me dis que même à 10 ans, si cette pièce-là, elle a réussi à lui faire prendre conscience que c'était au-delà de toutes les différences, Je trouve que le pari est gagné.
D'ailleurs, au tango, c'est la première fois où Petit Manu a dansé avec un homme.
Oui, parce qu'en fait, finalement,
moi, qu'il a failli emballer.
Moi, je savais pas. J'ai voulu danser avec une demoiselle et je sais pas.
Bon, il avait une robe.
Il y avait une pomme de dos. J'ai même pas reconnu. Après, on s'est excusé.
Une belle perruque. Et
ah
oui,
mais c'était tellement bien fait, bien. Bah, je me suis trompé. Mais qui ne s'est pas trompé? Mais enfin, en moi,
bah,
je me suis
trompé. Je suis jamais trompé.
Bah, bon. C'est bien. Mais moi, je me suis trompé. Je savais pas. Et... J'assume. Moi, tout le monde peut se tromper. La preuve.
Ah, merci Douglas Le Menu.
Merci beaucoup de l'invitation.
Allez, on continue avec la culture, avec Auré.
Ah.
De la culture dans Big Bang.
C'est cela, oui.
Comme chaque année, on ressort le DVD, enfin la VHS du Père Noël est une ordure. C'est le Saint Graal, mon Titanic de l'humour, j'aurai encore 15 ans plus tard.
Mais qu'est-ce que c'est que cette matière? C'est de la merde.
Ah, c'est pas mal, quoi.
Oh, le gâteau, il a pété.
La seule bataille que je mène actuellement, c'est celle contre mon bocal de cornichons que je n'arrive pas à ouvrir. Heureusement que j'ai la culture pour me donner l'impression de mener des combats qui en valent la peine. Alors, vous voulez vous battre? Vous voulez faire mal? Lâchez votre oreiller, moi je vous propose un vrai combat avec du sang et de la sueur. Oui. Alors, jingle théâtre. Ah, cruel, tu m'as trop entendu, je t'en ai dit assez. Pour te tirer d'erreur, eh bien, connais Phèdre et toute sa fureur. C'est de Racine, Phèdre, voilà, il y avait un indice.
Ouais, ça tombe bien, Manu, il en a des racines.
Oh oui, mais enfin, ça va. Mais c'est très naturel, spontané et naturel. Je confirme au grand public.
Au théâtre... Pardon, excuse-moi, je fais ma chronique. Au théâtre, ça se bat. Oui, ça se bat, pas avec les armes, avec les mêmes armes, mais ça se bat à la trilogie de la vengeance. Texte et mise en scène de Simon Stone. L'auteur part d'un constat. Au théâtre, comme dans d'autres représentations d'ailleurs, les femmes sont souvent écervelées, cupides ou sexualisées. Dans tous les cas, elles sont victimes des hommes, de leur violence, de leurs excès et leurs abandons. Stone a écrit une pièce moderne composée d'une distribution quasi exclusivement féminine pour venger ses héroïnes bafouées, humiliées et oubliées. Ces personnages se soulèveront contre le père manipulateur, le patron pervers, le mari absent pour renverser l'ordre des choses. Si l'interprétation est sans faute, mention spéciale à Valeria Bruni et Ei Aidara, le dispositif...
Pour une fois que c'est pas Carla.
Ah oui, ouais, c'est vrai. Ouais. Ça
non,
change.
Mais Valéria, exceptionnelle au théâtre. Le dispositif scénique est impressionnant. Les spectateurs sont répartis en trois groupes qui assisteront à trois actes dans trois salles différentes. Donc tout le monde ne voit pas le spectacle joué dans le même ordre, ni avec les mêmes comédiens. C'est un peu compliqué à expliquer en quelques secondes, mais les comédiens doivent interpréter tel personnage devant tel groupe de spectateurs pour ensuite changer de costume pour en jouer un autre devant un autre groupe de spectateurs.
Bon, ah, c'est sympa,
j'ai perdu tout le monde. Du théâtre qui se lit, mais qui se lit très bien, c'est La Femme pour Champ de Bataille de Matei Wisniewski. Alors là aussi, ça se castagne pas mal la gueule. Pas d'armes à feu, pas d'épée, pas de sabre laser, juste les mots. Deux femmes face à face, avec entre elles toute la cruauté du monde. L'une a été violée pendant la guerre de Bosnie. L'autre, psychologue américaine, travaille dans les charniers, cède devant l'horreur de la réalité. Étrangères l'une pour l'autre, elles vont devoir apprivoiser leur traumatisme, faire des cicatrices de l'autre, ses propres blessures, se tendre la main pour trouver une sortie à ce cauchemar. Le texte de l'auteur est terriblement juste, son tour de force est de poser des mots sur l'inaudible. C'est une petite pièce, je parle en nombre de pages, mais accessible à tous et nécessaire pour tous. On termine cette chronique avec une touche plus légère, Nos Batailles, un film de Guillaume Sénèze avec le super Romain Duris, l'excellente Laetitia Doche et la géniale Laure Calamy qu'on embrasse. Un père bataille sur tous les fronts, dans l'entreprise où il travaille pour maintenir un minimum de lien social et de respect entre employeur et employé, mais aussi à la maison, puisque sa femme vient de l'abandonner précipitamment pour une fois, en le laissant seul avec ses deux enfants. C'est un film réaliste, voilà, quelques jours dans un vrai quotidien, avec des rires et des pleurs. Alors on pourrait se demander quel est l'intérêt d'aller voir un film si c'est pour montrer une vie habituelle, c'est justement parce qu'il le fait avec justesse qu'il est intéressant, contrairement à bon nombre de films du genre qui tombent dans le facile et le pathos. Voilà, j'ai fini. Donc pendant que des héros homériques luttent contre des cyclopes et que des femmes risquent leur vie pour réclamer des droits, ben je vais retourner à mon pot de production. Voilà, souhaitez-moi bonne chance.
Bonne chance,
Auré.
Merci.
Allez, maintenant, on va s'endormir.
Non.
On va écouter la fabuleuse histoire de l'oreiller par Petit Manu.
Chaque semaine, il crypte l'actualité.
Un président américain, monsieur Baraka Orama. Donald Trump. Il arrive. Milton. David Bouillet. Joe Cocker. Justin Timberlake. Lady Dada. Sakina. Oui, Kendrick.
Retrouvez Petit Manu et son grand dossier journalistique.
J'ai mangé tous les ravotas. Non. Alors les amis, 700 ans avant Jésus-Christ, rappelons.
Normalement, tu poses une question.
Oui, rappelons.
Depuis quand existent les oreillers?
Depuis quand existent les oreillers? Très bonne question.
Alors,
à votre avis,
oreillers. Il a dit
1920.
Qu'est-ce que t'en penses?
Plus ancien.
Voilà, plus ancien. Qui dit
le Moyen-Âge.
Voilà.
Douglas.
Oui, Douglas.
C'est
très vieux,
ouais, moi, je dirais c'est plus que le Moyen-Âge. Oui. C'est
qui c'est? Eh ben, justement.
La préhistoire.
C'est 700 ans avant Jésus-Christ.
C'est 7000 ans.
7000 ans avant Jésus-Christ. Rappelons qu'à cette époque, les matelots n'avaient
pas. Les matelas.
Les matelots, oh là là. Ah oui, c'est oui, moi. Les matelas n'avaient pas encore vu le jour. Vous doutez bien que lorsque l'on dort à eux-mêmes le sol, les petites bêtes constituent des menaces pour le dormeur. À l'origine, l'oreiller servait de surélever la tête, ainsi que les araignées ne piquaient pas le dormeur, et les insectes microbiques avaient du mal, à déranger le sommeil.
Microscopique.
On continue. L'oreiller était la marque d'appartenance, un statut social élevé. Et les oreillers étaient, à votre avis, en pierre. Et vous,
En pierre.
Oui, tout à fait.
Non, mais c'est une question qui veut que tu poses.
Ils étaient en pierre.
Bravo, je l'ai dit. Oh là là.
Pierre, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui.
Ah bah oui, ça tombe bien.
On embrasse.
Pierre, très bon anniversaire. On est tout cœur
avec toi. Il a quel âge?
26 ans.
D'accord. Et les oreillers ont quel âge?
Il datait de 7000 ans avant Jésus-Christ.
Bah bon, 7000 voilà. Plus 2019.
J'ai pas oublié, mon cher Didier.
7000 plus 2019.
Oh là là, oh, ça fait un certain
ça nombre. Ça fait 7000 2019. Bah,
ouais, exactement. Je continue. Alors, on était. Vous voyez que d'ailleurs, photo les oreillers sur le. Si, Big Bang Station. Voilà.
Où on peut voir le premier oreiller en pierre.
Voilà. Et ben ça vaut tout son.
Un peu dur. Hein.
Ça passe en or, justement.
Non, les... pas de l'or, en pierre.
Tout sa pierre, tout ça, son prestige. Ah. Les oreillers servaient à corriger certains problèmes de dos, de nuque et d'épaule.
Bah, mais... en pierre, j'en doute, mais
bah,
bon.
Bah, ouais, enfin, faut imaginer.
Quand il comme
même...
ça.
Même les momies reposaient sur des oreillers car le caractère sacré sur leur tête demeure après le décès d'une personne. Eh ben, du côté des Chinois, le coton et autres matières douces étaient exclus car la croyance voulait qu'on absorbait l'énergie du corps humain pendant le sommeil. La Chine privilégiait donc le jade, le bronze, le porcelain, le bambou et le bois.
Ouais, c'est un peu dur aussi, bah ouais. Un peu moins que la pierre, mais enfin bon.
Mais enfin, c'est un peu étonnant. C'était en 581 et en 618, du 10e au 19e siècle.
C'est très long.
Et bah ouais, que la porcelaine restait la matière la plus répandue. Entre l'Europe développe un concept différent, les oreillers étaient confectionnés sur de la paille, des roseaux et parfois des plumes.
Ah bah c'est mieux.
Et bah ouais, c'est plus...
Plus
douillet, on se sent mieux. Ou on les voulait plus douillet, justement. Seule l'élite sociale avait droit. D'ailleurs, certaines monarques interdisent la fabrication de base, précisent que c'était un symbole de prestige auquel le petit peuple n'avait pas droit. Eh ben, faut savoir. Chez les Romains, justement, ou encore chez les Grecs, l'oreiller faisait également office de coussin. Ils offraient le plus de confort aux religieux qui s'agenouillaient pendant leurs prières et servaient de délicat support aux livres sacrés. Et c'est vers le 19e siècle.
C'est 2000 ans d'histoire.
Eh ben, il faut savoir.
On embrasse Stéphane Bern.
Oh bah, on peut. Bonjour à Stéphane. Vous allez entendre dans une émission à la radio. Et les oreillers tels que nous les connaissons actuellement prennent leur essor. Tout ce qu'on doit bien savoir connaître sur les oreillers. Et justement,
merci petit Manu.
J'aurais fini. Il y avait une émission il y a quelques temps, c'était présenté sur France 2 avec Frédéric Lobel. Panique sur l'oreiller. Et justement, les gens faisaient leur interview.
Non, c'était panique dans l'oreillette.
Ah, c'est dans l'oreillette, Boba. Ah, je pensais que c'était dans l'oreiller, Boba.
C'est panique dans l'oreiller.
Excuse-moi, Frédéric. J'ai improvisé, mais j'ai une pensée amicale. Bon, en tout cas,
panique sur l'oreiller.
Bon, ça aurait pu, hein. C'était dans l'oreillette. Bon, je me suis un peu trompé, mais ça ressemble. Amitié à Frédéric Lopez.
Drôle, panique sur l'oreiller.
Amitié. Bon, j'ai un peu improvisé, mais ça aurait pu être une très, un petit émission, qu'il aurait pu présenter.
Et Big Bang, c'est déjà fini.
Oh non.
Mais on se retrouve la semaine prochaine sur IDFM.
Ah oui.
à 20h.
Ah bah on sera là.
L'émission est rediffusée demain sur Precious Radio à 16h, à 19h sur Give Me Radio, à 20h sur Les Muses de Paris, mardi à 20h sur NG Radio, le samedi d'après à 11h sur Fréquence Zik, à 22h le vendredi sur Vinyl Radio, et partout et tout le temps ailleurs sur Big Bang Station. Merci à Douglas Lemenu d'être venu.
Merci à vous.
Et
merci,
bonne chance à Douglas. Moi je t'encourage. On est tout cœur avec toi. Hein. Donc, merci. La main.
Et nous on se retrouve la semaine prochaine. Salut à toutes et à tous.
Salut.
Ciao.
Okay, let's stop.